La grenouille traverse la grande mare Atlantique pour aller affronter les rigueurs de l'hiver canadien, ou plutôt québécois, pour vous emmener découvrir les rencontres internationales du documentaire de Montréal du 13 au 24 novembre 2013. Elle y rencontrera réalisateur et programmateur pour une série d'interviews prises sur le vif. Jean-Marie Thénault, bonjour.
Bonjour.
Vous présentez pour cette 16e édition des RIDM Une feuille dans le vent, la confession intime d'Ernestine Wangi, fille d'Ernest Wangi, héros de l'indépendance camerounaise et combattant pour la liberté et la démocratie dans son pays, jusqu'à sa mort, fusillé en 1971. Mais ce n'est pas le destin du héros que vous nous faites découvrir dans ce film, mais celui plus obscur, mais non moins tragique, de sa fille, Ernestine. Abandonnée par sa mère, elle vit une enfance horrible au Ghana, chez une tante. Ce film, c'est un peu le parallèle entre la misère d'une personne et celle d'un peuple, ou les conséquences intimes des soubresauts de l'histoire coloniale.
On peut présenter les choses de cette façon. Le destin d'Ernestine, qui n'est pas abandonnée par sa mère en fait la confie à une tante, et elle est maltraitée à la fois par cette tante et par cette mère. Parce qu'en fait, cette mère en fait, reproche à cette fille, dont ce n'est pas la responsabilité, par sa présence, en fait, sa fille semble lui avoir gâché complètement la vie. Et donc, sa mère le lui reproche et le lui fait payer assez chèrement. Je me suis intéressé à l'histoire de Ernestine Wangi, parce que, en l'écoutant cet après-midi, quand elle nous racontait ses souffrances d'enfant victime de maltraitance, je n'ai pas pu m'empêcher à la situation de des dizaines de milliers de jeunes femmes et d'enfants au Cameroun et partout en Afrique qui sont victimes de maltraitance et dont on parle souvent très peu. Et parfois maltraitance vis-à-vis de gens qui sont très proches. Des choses comme l'amour inconditionnel des parents vers leurs enfants, l'amour maternel, sont des choses qu'on prend toujours pour acquis. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et il arrive qu'il y ait des gens qui ont du mal à donner de l'amour à leurs enfants, soit parce qu'ils ont eux-mêmes subi des traumatismes tellement violents. Et l'époque coloniale a été une époque traumatique pour tellement d'Africains, soit pour d'autres raisons. Et ici, pour moi, j'ai retenu surtout toutes ces violences de l'époque coloniale, toutes ces maltraitances qui s'est inscrite progressivement dans la chair de nombreuses personnes qui, à mon sens, ont continué de reproduire ces violences. Et l'histoire d'Ernestine, c'est une succession de violences. Et à la fin, elle finit par se faire violence elle-même aussi en se donnant la mort.
Ce film, c'est l'histoire d'un déni de mémoire. La seule photo de son père qu'Ernestine possède le montre menotté. Que peut-elle alors expliquer à ses enfants, alors que les autorités camerounaises font totalement silence sur le destin de leur père? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce déni de mémoire de la part du Cameroun?
Je pense que c'est un déni de mémoire qui n'est pas seulement de la part du Cameroun. Je crois que pendant très longtemps en France, il y a eu aussi un déni de mémoire par rapport à l'histoire coloniale et ça continue. Or, vous savez, toutes les fois que des choses se passent en France, elles se passent aussi dans la plupart des pays africains. Et l'histoire coloniale, c'est une histoire commune entre la France et beaucoup de pays africains. Et en France, cette mémoire n'a pas encore été explorée réellement en profondeur. Il y a quelques tentatives individuelles, mais ça reste encore quelque chose de superficiel. Or, la plupart des pays africains sont presque toujours à la remorque et à la traîne de la France. Donc, si en France on ne fait pas ce travail de mémoire par rapport à une partie obscure de son histoire, et qu'on continue de laisser courir ce mythe du pays des droits de l'homme, qui est complètement ce qu'il est, mais si on refuse de regarder cette histoire coloniale et toutes ses conséquences, ben on encourage les gens dans les pays africains à continuer à vivre dans ce silence. Et ce silence est criminel, car ce silence empêche aux gens de faire le bilan sur leur histoire, sur où ils en sont réellement, car ils continuent de vivre dans une forme de fantaisie. Et cette fantaisie est grave dans la mesure où ce qui est en train de revenir en France aujourd'hui avec tous ces discours xénophobes qu'on croyait disparus depuis plus d'un siècle, ces discours sont en train de revenir puisqu'on a libéré la parole. Donc, le problème, en fait, qu'on vit de déni de mémoire par rapport à l'histoire coloniale est en train de rattraper la France aujourd'hui de la manière la plus grave, où des Français qui sont, même les Français les plus, dans les plus hautes sphères de l'État, peuvent être complètement ramenés à une forme de bestialité qu'ils ne méritent même pas d'avoir, car personne ne mérite d'être comparé à un animal. Et il n'y a aucun fondement, si ce n'est la bêtise, en fait. Or, si dans la société, certains se croient autorisés à traiter d'autres Français à cause de la couleur de leur peau comme des animaux, je pense qu'il y a un véritable problème en France aujourd'hui, parce que cette minorité est en train de détruire ou même de dénaturer complètement tout ce que la France a pu représenter.
Reste qu'au Cameroun, si Ernest Ouandjé est un héros national, héros de l'indépendance, évoquer son destin, évoquer sa mémoire et évoquer les conditions de son exécution semble aujourd'hui créer un malaise. Pourquoi ce malaise ?
Mais justement parce que les archives ne sont pas ouvertes et parce qu'il s'est passé tellement de choses pendant ces périodes de lutte pour les indépendances. Il y a eu beaucoup de trahisons, il y a eu beaucoup de manipulations, il y a eu beaucoup de choses qui ont été cachées. Et le silence, justement, permet à ce que les gens ne retournent pas là-dedans. Et c'est important, justement, qu'on puisse rouvrir toutes ces archives, libérer la parole pour que les gens comprennent exactement ce qui s'est passé. Et je crois que ce qui fait le plus peur, c'est qu'en libérant cette parole, on libère une parole qui risque de libérer beaucoup de choses, même du présent. Parce qu'il y a un silence qui continue de se perpétuer, qui fait qu'on a des systèmes qui se mettent en place, des systèmes d'exploitation, des systèmes de corruption qui se mettent en place, qui s'appuient constamment sur ce silence. Et quand on commence à rompre ce silence, on s'attaque déjà d'une certaine manière à ces réseaux, à tout ce qui empêche en fait la société, les sociétés africaines de s'épanouir, donc de sortir de l'espace dans lequel on veut les cantonner. Car l'Afrique est devenue l'espace de la charité, mais c'est pas parce que c'est tout simplement une construction qui permet le pillage en toute tranquillité du continent, tout en continuant de se donner non seulement bonne conscience, mais en prétendant même à la limite être en train d'aider ces pauvres Africains, quoi.
Une enfance malheureuse, celle d'Ernestine Ouandjé, une mémoire en lambeaux, oui. Et au final, tout cela l'a conduit au suicide, en 2009. Oui. Avant un prochain film à venir, je crois, sur Ernest Ouandjé, ce film sur sa fille, de votre part, c'était une façon de lui faire honneur, de réhabiliter la mémoire des anonymes victimes du colonialisme.
C'était un engagement presque personnel. Quand j'ai écouté tout ce qu'elle m'a dit, je ne pouvais pas rester indifférent. Tant qu'elle était vivante, j'avais espoir de faire un film sur le père. Mais quand elle s'est donné la mort, j'ai presque le sentiment que je me suis senti obligé de faire un film sur elle aussi, parce que sa parole est forte, sa parole, bien qu'elle ne soit pas une politique, mais son témoignage de là où elle est partie, ce qu'elle a vécu, mais la manière dont elle articule son propos par rapport à la réflexion sur le monde qui l'entoure, pour moi, je pensais que c'était important de montrer, de livrer cette parole au reste du monde.
Pour que justice soit faite, pour que la vérité soit dite enfin sur les conséquences du colonialisme et de la France-Afrique des années 70, que faut-il faire et d'où doit venir la vérité? Du Cameroun, de la France, d'ailleurs, quelle nouvelle forme de collaboration faut-il imaginer pour inventer autre chose que cette espèce de bien-pensance que vous évoquiez à l'instant avec la charité à l'égard de l'Afrique? Comment faire finalement la vérité sur ce qu'a été et ce que continue à être encore le colonialisme?
Je crois que la première chose, c'est de commencer par reconnaître que quand on colonise d'autres peuples, on se colonise soi-même. Et tant qu'on ne sort pas d'une attitude coloniale, d'une attitude mentale coloniale, on a beaucoup de mal à se rendre compte de ce que c'est que la colonisation. Et je crois que c'est le premier travail, c'est ça, c'est décoloniser les esprits en Europe, parce que les gens sont encore enfermés dans des logiques coloniales. Et quand ce travail commencera, on pourra alors à partir de là travailler, parce qu'en Afrique, quel que soit le travail qu'on peut faire pour libérer les gens, Mais si en Europe, ce travail ne se fait pas aussi en même temps, on n'en sort pas, parce qu'on va toujours retrouver des mécanismes qui vont nous ramener toujours au même point, en fait. Et quand on a des gens qui vont vous regarder, si on parle du racisme, mais le racisme, c'est faire projeter sur l'autre tellement de choses. Mais en même temps, le racisme, c'est ne pas être capable de regarder l'autre juste pour ce qu'il est, sans commencer à lui projeter sur lui un certain nombre d'a priori, et même à la limite, à décider pour lui, en estimant que lui-même n'est pas tout seul capable de se définir, et on n'est pas capable d'accepter la définition qu'il donne de lui-même. Donc moi, je crois qu'il faut se décoloniser les esprits en Europe pour arriver à accepter l'autre pour ce qu'il est et pas pour ce que nous voudrions ou pas pour ce qu'on voudrait qu'il soit.
Et révéler aussi toutes les exactions, tous les assassinats, tout le travail des services secrets. Par exemple, le prédécesseur d'Ernest Wanger avait été assassiné par les services secrets français. Il faudrait donc ouvrir les archives, y compris les archives classifiées, les archives secrètes.
Il faudrait ouvrir toutes les archives de manière à ce qu'on comprenne, qu'on voit ce qui s'est passé, qu'on lise les stratégies qui ont été mises en place, qu'on voit aussi tous les massacres qui ont été faits, qui ont été commandités, les bombardements au napalm dans des régions habitées par les populations civiles, par l'armée française. Je crois que tout ça, il faudrait qu'on en parle de manière à ce que, pour s'assurer que ça ne se reproduira pas. Parce qu'on ne peut pas tout simplement continuer à dire « oui, il se passe ceci au Moyen-Orient et tout ça ». À des États qui tirent sur les populations civiles, quand on oublie ou quand on ne veut pas regarder tout ce qui s'est passé pendant tellement longtemps en Afrique, et quand on veut continuer à enfermer tout un continent dans une logique comme ça de destruction, de violence, de déstabilisation, de chaos, et ensuite d'assistanat, mais un assistanat qui fait tout pour que justement rien ne change, un assistanat qui voudrait s'installer là de manière ad vitam aeternam, quoi.
Plutôt qu'une fresque historique, didactique et documentée, vous semblez affirmer avec ce film que c'est à travers l'intime qu'on peut comprendre l'histoire. C'est le cas ?
Oui, l'intime peut participer à faire comprendre l'histoire. Et moi, je crois que quand les gens sont émus par des histoires personnelles, ça laisse aux gens la capacité de faire des connexions et de se poser des questions. Je crois que les histoires personnelles et intimes touchent plus directement les gens et les gens peuvent s'associer, les gens, ça les renvoie à leur propre vie, ça les renvoie aussi à leur humanité. Et donc moi je me dis que cela amène plus facilement les gens à s'interroger, à questionner l'histoire quand on parle à la fois d'histoire individuelle. Et donc dans ce film, justement, il y a l'histoire d'Ernestine qui rencontre la grande histoire du Cameroun. Et toutes les deux histoires sont imbriquées parce que les conséquences de l'une a des conséquences sur l'autre et vice-versa.
Ce film était présenté, je crois, au Festival des films d'Afrique du Pays d'Apt, pas loin de Marseille. Je crois aussi qu'il a été présenté pour la sélection du FID lors de sa dernière édition. Oui. Est-ce qu'il va être distribué, vu largement, dans un grand nombre de salles en France ?
Je vais essayer de le distribuer dans de nombreuses salles en France. Il faut que j'aie un peu d'argent pour faire un DCP. Et quand je ferai le DCP, c'est le nouveau format de diffusion, je pourrai le sortir au cinéma.
Et peut-être un prochain projet à venir, je crois, autour de Ernest Wanger, à moins que vous ayez un autre projet sur le feu, un autre projet en cours.
Oui, en attendant le film sur Ernest Wanger, je suis en train de travailler sur... Je suis en montage d'un film qui s'appelle « Le futur dans le rétro ». Donc c'est une réflexion sur à la fois le temps qui passe et à la fois aussi les visions prospectives de l'Afrique, les choses qui paraissaient être d'un temps très ancien qui reviennent à la mode. En fait, c'est une réflexion sur la vie, le temps qui passe et sur les nouvelles structures qui sont en fait très anciennes, qui redeviennent en vogue. En même temps, ça permet de poser la question, est-ce que notre avenir, c'est dans le passé, et c'est pour ça que la question du film, le titre du film, le futur dans le rétro.
Un projet qui sera finalisé quand ?
J'espère fin 2014.
On l'attend avec impatience. Merci beaucoup, Jean-Marie Thénault. Avec cette 11e chronique s'achève le cycle que La Grenouille consacrait à la 16e édition des rencontres internationales du documentaire de Montréal. Retrouvez l'ensemble des interviews de réalisateurs et d'artistes invités du festival sur radiogrenouille.com. Merci à toute l'équipe des RIDM, à Clément Baudet, et Dorothy Henault.